Nous régnons par ce chant qui nous amène à adorer le Seigneur, n'est-ce pas? On n'a pas dit « Seigneur, je suis venu te chanter ». Je suis venu t'adorer, il y a une différence. Et je crois que l'importance pour nous, puisque nous sommes dans un temps de réunion de prière, c'est de comprendre que nous ne sommes pas venus pour apporter des mots. Ce n'est pas les mots, ce n'est pas les paroles. Ce n'est même pas la langue dans laquelle nous allons les prononcer qui est importante. Est-ce que notre prière répond aux principes de Dieu? Est-ce que nos paroles, nos cœurs, est-ce qu'ils sont à l'unisson avec ce que Dieu exige? Nous avons ce texte qui est écrit juste avant de sortir. « Ma maison sera appelée maison de prière ». Moi, j'aurais préféré ce texte ici. Non pas à la sortie, à l'entrée. D'un côté, de l'autre. Pourquoi ? Parce que je crois que nous devons être conscients de pourquoi nous nous rendons dans ce lieu. Ce lieu comme quelconque autre lieu. On peut se retrouver dans un autre lieu et le but, si c'est la prière, quelle est la prière que Dieu veut entendre ? Vous connaissez ce texte de l'évangile de Luc où les disciples diront à Jésus « Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » On ne verra pas dans la Bible écrit « Jésus, enseigne-nous à prêcher. » Pourtant, ils ont dû apprendre. Mais ils diront à Jésus « Enseigne-nous à prier. » Ça veut dire que nous avons besoin de considérer à juste titre la prière comme quelque chose encore d'excellence. Quelque chose, un palier supérieur. Alors, en lisant la parole de Dieu, on voit que la prière a des exigences. J'en ai pris quelques-unes. Luc, chapitre 18, versets 10 à 14, il nous parle de l'humilité et de la repentance. Vous connaissez ce texte. Luc 18, 10 à 14, il dit « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre péager. » Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera... Waouh ! Quelle leçon de prière ! Jésus, là, il n'enseigne plus que ses disciples. Jésus parle de cela à ceux qui l'écoutent et il est valable encore pour nous aujourd'hui. Jésus est en train d'aller plus loin, même avec la foule, parce que Jésus ne veut pas que seulement les disciples puissent prier. S'il n'y avait que 12 hommes qui avaient le droit, quelque part, d'apprendre à prier, frères et sœurs, on n'aurait pas de réunion de prière. Ça veut dire qu'à quelque part, ce serait quelque chose qui est relié qu'à une certaine élite, et Dieu nous garde. Puisque la parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes prient. C'est un encouragement. Même l'apôtre Paul dira qu'on prie en tout lieu. Je veux que tous les hommes prient, les femmes aussi. Amen. Mais comment prier? Et on voit dans cet exemple que Jésus partagera deux types de prières, deux manières de faire. Une prière qui élève, une prière qui est celle de celui qui s'humilie. Et c'est celle-ci que Jésus retient. Alors, humilité, repentance. Deuxième facteur, la simplicité. Matthieu 6, verset 5, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. » Waouh ! Deuxième leçon. On peut dire que Jésus n'y allait pas avec le dos de la cuillère, hein ? Non ? C'est fort ce qu'il vient de dire. Croyez-moi, quand il a parlé des hypocrites, quand il a parlé de ce genre de choses, certains ont dû avoir les yeux qui piquent. les oreilles qui sifflent. Non ? Alors, je ne sais pas s'ils ont continué à regarder Jésus comme ils le faisaient avant, ou s'ils ont eu finalement la bonne attitude qui était celle de baisser le regard et dire, Seigneur, j'ai compris, pardonne-moi. Change mon cœur, change ma vie. Troisième facteur, le pardon. Marc chapitre 11, versets 25 à 26, là aussi encore une autre leçon. Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Waouh ! Allez, leçon de prière. Ah, c'était un stage incroyable. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jésus est en train de donner aux disciples, mais à tous ceux qui étaient en train de le suivre, des informations importantes, elles sont valables encore aujourd'hui pour nous. Il leur dit, certes, tu vas offrir un sacrifice, est-ce que tu es en paix avec les autres ? Il va aller même au point de dire, quand tu donnes ton offrande, assure-toi. Et quand ce sera le moment aussi de partager le pain et le vin, là encore une fois, oh combien d'occasions Dieu nous donne, frères et sœurs, pour une analyse du cœur, mais surtout combien de belles occasions d'être en paix avec Dieu et avec les hommes. Lorsque vous êtes debout en prière. Alors je vous soulage, si vous êtes assis, la règle est la même. Si vous êtes allongé, c'est la même chose. Je dirais qu'à quelque part, si le pardon n'est pas là, notre prière, elle s'arrête. C'est des mots. C'est plus de l'adoration, c'est un chant. Vous voyez la différence ? Le pardon, ce n'est pas de l'homéopathie. Matthieu, chapitre 18, versets 21-22. J'ai rencontré une dame il y a quelques semaines de cela, qui disait qu'elle aime son beau-fils, mais à dose homéopathique. Alors moi, à la base, je me suis dit, tiens, celle-ci, je ne l'avais jamais entendue, mais je l'apprends, elle est pas mal. Mais la parole de Dieu nous parle du pardon, non pas comme de l'homéopathie. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois. C'est déjà pas mal cette fois, non ? Et Jésus lui dit, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Tu as posé la question, tu as la réponse. Alors comprenons bien, frères et sœurs, que le pardon, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Parce que de quelle manière je peux demander pardon à Dieu si moi je ne pardonne pas ? Et après, il y a ce point de l'attente de l'exaucement. Marc, chapitre 11, verset 24, qui dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alors, vous corrigez si je me trompe, il dit, croyez que vous l'avez reçu au présent. Et, c'est la condition, non ? Cela vous sera accordé. Il y a un avant et un après. Nous, parfois, on aimerait que c'est les deux s'inversent. Tu me le donnes et après, je suis sûr de l'avoir reçu. Mais le Seigneur nous dit, non, c'est différemment. Crois que tu l'as reçu et cela te sera accordé. Mais si on s'arrêtait à la prière, je crois qu'on ferait fausse route. Parce que la parole de Dieu nous parle aussi de l'intercession. Et l'intercession, c'est encore différent. Et nous, parfois, j'ai le sentiment qu'on navigue un peu entre les deux. Qu'est-ce qu'est l'intercession ? Alors la prière, si on a bien saisi ce que c'est apporter notre cœur au Seigneur, apporter nos besoins, apporter certes notre famille, apporter nos fardeaux. Dieu soit béni pour cette grâce qui nous est donnée. Mais l'intercession, c'est quelque chose qui nous amène un peu plus loin et on ne peut pas la vivre si on ne remplit pas certaines conditions. On pourrait croire qu'on est devenu du jour au lendemain des intercesseurs. Mais ce n'est pas parce que nous, on a décidé que forcément, on est devenus des intercesseurs. Il y a des valeurs qui doivent d'abord se déposer dans notre cœur pour que finalement, nous soyons prêts à porter le fardeau de l'intercession. Alors, je voudrais juste les citer avec vous, puisque je crois que c'est important pour nous de comprendre que l'intercession, c'est prier, insister dans sa demande, réclamer, s'entretenir en vue de solliciter pour autrui ou pour quelque chose à quelqu'un qui a de l'autorité. Qui a de l'autorité ? Qui a l'autorité ? Qui a l'autorité ? Ah, vous voyez ? Ah, on est un peu en confusion là. Jésus dira : demandez au Père en mon nom. Dans la manière où Jésus enseignera à ses disciples à prier, dites notre Père. Nous sommes, frères et sœurs, appelés à aller à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Regardons encore un peu plus loin les Écritures. Et vous verrez qu'il y a un tas de choses sur lesquelles peut-être on doit davantage s'arrêter, examiner, prier, demander à Dieu de nous éclairer. Il dira dans la parole de Dieu en Jérémie, chapitre 29, verset 7, « Recherchez la paix dans la ville où je vous ai déporté et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur pour que votre paix, parce que votre paix dépendra de la sienne. » Pourtant, il n'est pas question de dire vous êtes rentré dans la terre promise. Vous voyez bien le texte ? Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté. Parfois, Dieu nous amène dans des lieux où on n'a pas envie d'aller. Et là, on aime bien avoir nos trousseaux de clés de voiture, rentrer dans notre voiture, mettre en route le moteur et rentrer le plus rapidement possible à la maison parce qu'on n'a pas envie d'être là. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Si on veut vraiment intercéder, il faut accepter parfois d'aller là où on n'a pas envie d'aller. Ce n'est pas une partie plaisir. La réunion de prière ne peut pas être juste un moment où on se voit et on partage quelques sujets et on rentre à la maison en disant « j'ai fait mon devoir, j'ai prié, au moins une fois. » Et si j'ai pu faire deux, alors là, c'est le top. Non. Il dit, intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Alors ça a commencé à me travailler. Comment est-il possible que ma paix dépend de ce lieu où Dieu peut-être m'a amené contre ma volonté ? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire ? Que je travaillais pour ? Mais moi, je ne veux pas être là, Seigneur. Alors on est là, Seigneur, sors-moi de ma situation. Sors-moi de ce problème, Seigneur. Tu vois, cette collaboration est impossible, Seigneur. Cette communion n'est pas faisable, Seigneur. Ce travail, ce service, cette œuvre, Seigneur, avec qui tu veux, mais pas avec eux. Eh bien, le Seigneur nous dit, écoute, ta paix dépend de... J'ai eu un responsable quand je travaillais en Suisse, à qui un jour, deux collègues sont allés le voir, ils étaient énervés tous les deux, l'un contre l'autre, et ils sont allés le voir en lui disant « Nous, on ne veut plus bosser ensemble, ce n'est pas possible !» Il les regarde, il dit « Écoutez, là, vous avez une pile de travail, vous allez le faire tous les deux. Non, mais vous pouvez nous donner quelqu'un d'autre. Non, 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 c'est simple. À la fin de la journée, ou vous êtes étripé, ou vous avez résolu votre problème. Parce qu'en tous les cas, pour faire ce travail, vous avez besoin l'un de l'autre. » Fin de journée, ils étaient les meilleurs amis du monde. Mais ils avaient besoin de passer par cela. Et moi, en le voyant faire, je dis, Seigneur, là, qu'est-ce qui va se passer là dans les congélos? Ils vont s'enfermer l'un l'autre. À moins 30, demain, on va les retrouver durs comme le sanglier. Hein, on avait un sanglier témoin. Dans les congélos, on avait un sanglier qui avait été là. Il faisait 30 ans qu'il était là. C'était le sanglier qui faisait peur. Parce que dès que quelqu'un nouveau venait travailler, on le ramenait dans cette chambre où tout était noir. Et on lui dit, allume la lumière. Quand il touchait la lumière, il y avait le sanglier. Hein ? Et je me suis dit, on va avoir les deux à côté d'une porte pour faire peur aux autres. Frères et sœurs, parfois notre manière de faire fait peur aux autres. Et on se dit, si c'est ça la prière, je reste chez moi. On est un peu comme le sanglier. Tant que vous le caressez dans le sens du poil, ça va, mais autrement, c'est rude. Et encore. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend, l'intercession? Je vais vous dire tout de suite que l'intercession a un fondement qui est l'amour, la prière et la foi qui donne naissance par l'œuvre du Saint-Esprit. Vous connaissez le texte de Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Si mon cœur n'est pas à l'unisson avec celui du Saint-Esprit, frères et sœurs, j'ai beau dire que j'intercède, je suis juste en train de multiplier mes mots. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, fais naître en moi un vrai cœur d'intercesseur? Attention. Parce que si on demande ça, ça veut dire que notre cœur va être mis à vif. On ne prie pas de la même manière. Quand on prie pour quelqu'un, ok, Seigneur, bénis-le, fais-lui du bien, alléluia, amen, allez, hop, on passe à l'autre. Là, Seigneur, mets ton cœur collé au sien. Et là, son battement, tu l'entends. Sa souffrance, tu la sens. Et tu ne peux pas passer à autre chose de dire, Seigneur, fais-lui grâce, Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, parce que je souffre avec lui. Seigneur, je vis ce qu'il est en train de vivre. Tu ne peux pas nous laisser comme ça, Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, demander au Seigneur qui donne notre cœur cette attitude, ça veut dire qu'à quelque part, on doit accepter que le Seigneur et que le Saint-Esprit, excusez-moi, mais nous mettent à nu dans nos sentiments, dans nos actions. Alors, on a parlé de ce qu'ils attendent dans la prière, mais elle s'applique aussi dans l'intercession. On ne peut pas passer à l'intercession sans passer par l'étape de la prière. Excusez-moi. On ne peut pas dire, ah ben attends, le pardon, non, la simplicité, non, écoute, je ne deviens que intercesseur, je ne prie plus. Je prie pour les autres. Seigneur, c'est bien. Mais non, non, ça ne marche pas comme ça. Intercession, une prière, demande faite en faveur de quelqu'un d'autre. Jésus a beaucoup intercédé pour les hommes. Dans Jean chapitre 17, il prie non seulement pour les apôtres, mais pour l'ensemble des hommes qui placent leur confiance en lui. Père, je te prie pas seulement pour eux, mais aussi pour les autres, n'est-ce pas? Donc Jésus nous apprend, et Jésus est ce serviteur souffrant qui intercède pour les coupables, n'est-ce pas? C'est ce qui nous dit Ésaïe 53. Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, il est appelé le paraclète, l'avocat. Alors je me suis rendu compte que quelque chose, alors je ne fais pas une différence entre les prières de Jésus ici sur terre et la prière de Jésus dans le ciel. Mais là, Jésus dit, Père, je te prie. Et après, ce que je vois, c'est que Jésus, aujourd'hui, dans la place qu'il a, il intercède. Jésus, lui, il a besoin de rien. Qu'est-ce qu'il peut avoir besoin de plus? Il a tout. Sauf toi et moi. Et son cœur ne peut pas être trompé tant que nous ne sommes pas pleinement à lui. Et ce que le Seigneur désire profondément, c'est que notre cœur devienne comme le sien. Alors, encore une fois, est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien? Ça veut dire que quelque part, notre vie nous amène à être un peu comme un avocat, non pas l'avocat des causes perdues. Parce qu'il est question pour nous de comprendre que l'intercession est impossible si nous ne croyons pas la réalité de la rédemption. Qui a payé le prix? C'est Jésus. Amen. Mais ça veut dire aussi qu'intercéder nous pose, frères et sœurs, cette difficulté qui est celle non pas de se mettre à la place de la personne pour laquelle on prie, c'est de s'efforcer de voir les choses du point de vue de Dieu. Parce que si je me mets à la place de quelqu'un, pourquoi Dieu ne lui répond pas ? Mais si je veux intercéder, je dois dire, Seigneur, comment tu vois ce frère ? Comment on peut l'aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur ? Et peut-être que ce frère aurait besoin, ou cette sœur, une parole qui va tout changer dans son cœur. Et notre intercession aura un symbole, un signe différent, aura une incidence différente. Prier, ce n'est pas juste élever nos voix et de dire, Seigneur, on a besoin de toi. Et il y a un dernier point, c'est que quand on regarde l'intercession, il y a un prix à payer. Alors, on n'aime pas trop payer. Quand on parle de payer, on a des oursins dans les mains. Mais dans le cas de la prière, dans le cas de la vie spirituelle, les oursins se placent ailleurs, sur notre cœur. On n'a pas envie de prendre plus, on n'a pas envie de donner plus. Pourtant, il faut bien savoir ce que la parole de Dieu nous dit. Romains chapitre 8, verset 32-34, il nous dira « Dieu, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comme ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ?» Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ est celui qui est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quel est le prix que Christ a payé ? Et comment je peux devenir un intercesseur sans passer aussi par cette étape de la mort en soi et d'accepter de renaître non plus avec mes pensées, mes idées, mes conceptions, mais avec celles de Christ. L'apôtre Paul dira quelque chose qui m'a personnellement un peu interpellé. Alors, il va dire quelque chose en Colossiens chapitre 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et je supplée dans ma chair à ceux qui manquent aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ? Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ? On est bien conscient que Christ est la tête de l'Église, nous sommes son corps, et autant que tel, nous devons accepter de souffrir pour lui et aussi pour nos frères et sœurs. Vous connaissez ce texte de 1 Corinthiens 12 qui dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. » Amen. Alors vous voyez qu'il n'y a pas d'intercession sans souffrance, excusez-moi. On est obligé à quelque part de prendre part, puisque la partie suivante, après, elle nous convient un peu mieux. Si un membre est honoré, tous les membres s'en réjouissent avec lui. On est toujours sur 1 Corinthiens 12, versets 26 et 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ? Je supplée dans ma chair à ceux qui manquent aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. Christ a payé le prix dans sa totalité. Ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni vous, ni moi, nous pouvons ajouter quoi que ce soit. Nada. Impossible. D'accord ? Mais Paul se réjouissait de souffrir pour ses frères, d'abord parce qu'il aimait ses frères, ensuite parce qu'il avait les sentiments qu'il souffrait avec son Sauveur, portant les afflictions de Christ, lui, étant rendu semblable et digne de souffrir pour le nom de son Sauveur. Est-ce qu'on est prêt, nous ? Est-ce que nous sommes disponibles à souffrir comme Christ a souffert pour son Église ? Là, l'intercession prend toute sa valeur. ce n'est pas juste des mots. Ça va plus loin. Ce n'est pas juste de dire, il y a un tel sur la liste, je vais prier pour lui. Non. Je vais continuer. Je vais souffrir avec lui. Jusqu'à ce que, parce que je sais que la parole de Dieu me dit que Dieu a une réponse à nos prières. Alors, à votre avis, que se passe-t-il quand l'Église prie? Ma maison sera appelée une maison de... Ça veut dire que déjà, quand on prie, on est dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est prêt à prier? Et qu'est-ce qui se passe quand on intercède? Je vais vous dire. On est juste devant les pieds de Jésus. Parce que l'intercession que nous pouvons apporter ne sera jamais au-dessus de ce que Christ est en train déjà de porter. Mais étant à ses pieds, nous entendons son cœur, nous entendons sa voix et nous unissons nos prières à la prière de Jésus lui-même en disant, Père, en ton nom, Seigneur, agis. En ton nom, mon Dieu, mon Père, interviens. Mon Père, guéris. Mon Père, aie pitié d'eux. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au pied de Jésus? On ferme nos yeux, on incline nos têtes. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où nous avons passé du temps à parler sans avoir forcément ni prié ni intercédé. Pardon pour toutes les fois où nous avons examiné les problèmes en essayant de comprendre comment, pourquoi, alors que nous avions juste, Seigneur, à venir à tes pieds. Seigneur, pardon pour toutes les fois, Seigneur, où cette maison qui doit être une maison de prière, Seigneur, n'a pas été remplie des prières. Et nos cœurs n'ont pas été animés de bons sentiments. Seigneur, comment ne pas encore te dire pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas bien agi, où je n'ai pas bien agi. Merci pour ta parole, parce que, Seigneur, elle nous redresse. Elle nous remet, Seigneur, d'équerre pour que nous puissions véritablement, Seigneur, accomplir, Seigneur, ce que tu attends de nous. Seigneur, fais de nous, pas seulement un peuple qui prie, mais un peuple qui intercède. Seigneur, certes, nous verrons des sujets venir, des choses parfois lourdes, Seigneur, qu'on ne voudrait pas devoir porter. Mais Seigneur, si tu nous places là, c'est parce que tu as un projet. Seigneur, toi, tu ne voulais pas, tu n'es pas été à la croix par plaisir. Tu as même dit, Père, c'est un autre moyen, mais non pas ma volonté, la tienne. Seigneur, alors aide-nous vraiment à saisir, Seigneur, ce rôle, à saisir cette importance, Seigneur, de l'intercession. Alors on verra, Seigneur, les aveugles revoir. Nous verrons les malades être guéris. Nous verrons des cœurs se convertir. Nous verrons des actions de l'Esprit. Nous verrons tout à nouveau des baptêmes du Saint-Esprit, Seigneur. Nous verrons ce que l'Église doit voir, Seigneur. À toi, honneur et gloire, Seigneur. À toi, Seigneur, et à toi seul, toute la reconnaissance. Amen.